Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Emmanuel Macron, positif au Covid, a-t-il été imprudent ?
Le chef de l'État est à l'isolement et son entourage dresse la liste de tous les cas contacts potentiels. Et ça fait beaucoup de monde.
En tout cas, pour l'instant, le président va bien et son épouse Brigitte, elle, est négative.
Les derniers chiffres, justement, du Covid, ils sont mauvais. 18 254 cas enregistrés ces dernières 24 heures. Évolution préoccupante, nous dit ce soir le directeur général de la Santé.
Pour les étudiants, les cours reprendront début janvier. Un accueil partiel, pas tout le temps et pas pour tout le monde.
La fronde est encore monté d'un cran. Deux syndicats de magistrats portent plainte contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République.
Il lui reproche d'être juge et parti.
Au sommaire également ce soir, Huawei, le géant chinois, choisit la France pour installer sa première usine hors de son pays.
Et puis 36-15, ça vous rappelle des souvenirs
non,
peut-être.
Carrément.
Vous allez adorer la série Culottée qui sort ce soir sur les débuts du Minitel Rose.
J'ai hâte d'entendre le reportage. La météo avec Anissa, toujours un département en vigilance, Anissa.
Oui, c'est le département des Landes qui est placé en vigilance. Orange cru depuis plusieurs jours maintenant. La décrue de la Dour est très lente. Ce week-end, attention, de fortes pluies sont attendues dans le sud. En attendant, demain, le soleil brille. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un dîner après 20h et avec 12 convives à table, c'est tout ce que l'on demande aux Français de ne pas faire.
Mais Emmanuel Macron n'est pas un Français, évidemment, comme les autres. Hier soir, il a donc dîné avec les principaux membres de la majorité.
Et quelques heures plus tard, le président a ressenti les premiers symptômes. Ce matin, test positif, mise à l'isolement immédiate. Jean-Rémy Baudeau, l'Élysée se défend de toute imprudence.
Non, pas d'imprudence selon l'Élysée. Ces réunions, dîners, déjeuners, ce sont des rendez-vous de travail, plaide l'entourage du président. Des rencontres où le protocole sanitaire est très strict. Concernant le dîner de la majorité hier soir, l'Élysée parle donc de 12 personnes réunies dans la salle des fêtes qui peut en accueillir 700, 1,50 m entre chaque convive, des micros, des masques, bref. Sur le papier, c'est presque parfait, sauf que ce dîner, comme d'autres rendez-vous, ont généré des cas contacts après la découverte du Covid du président. Jean Castex, Premier ministre, testé négatif, mais tout de même à l'isolement. Idem pour Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée. Le plus proche collaborateur du président, Alexis Colère, est aussi isolé, et comme le ministre Marc Fesneau. Dans l'entourage du président, on rappelle que c'est probablement à Bruxelles, en fin de semaine dernière, qu'Emmanuel Macron a été infecté. Le sommet de l'État se retrouve donc sous cloche, mais pas inactif. Emmanuel Macron a participé ce soir à une visioconférence sur l'humanitaire. On l'a découvert à l'image, un peu fatigué. Écoutez.
Malgré les contraintes liées au moment, par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement.
Voilà, ce truchement. En tout cas, la semaine d'Emmanuel Macron, elle va beaucoup ressembler à ça, des heures et des heures de visioconférence, car évidemment, tout le reste de son agenda est supprimé. Le déplacement du président au Liban, par exemple, a été annulé.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et on rappelle donc que Brigitte Macron, elle, a été testée négative. Noël se profile, les vacances également, et on s'inquiète tous de l'évolution de l'épidémie, surtout maintenant qu'on a un président malade.
Alors, a-t-on raison de s'inquiéter ? Anne Le Gall, vous nous avez rejoint. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, vient de faire un nouveau point. Que donnent les derniers chiffres ?
Eh bien, après une phase de plateau, les chiffres montrent une légère tendance à la reprise de l'épidémie. Plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour. 2 800 patients se trouvent ce soir en réanimation et le R est redevenu légèrement supérieur à 1. Le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, les Pays de Loire, l'Île-de-France, la Normandie sont les zones les plus concernées par cette reprise de l'activité épidémique. Les fêtes s'annoncent donc comme une période à haut risque, a rappelé le professeur Jérôme Salomon.
Nous attendons toutes et tous ces moments de repos, de sérénité, de retrouvailles et de fêtes. Ils impliquent souvent des déplacements, l'étudiant qui rentre dans sa famille, les fratries à nouveau rassemblées, les amis qui se retrouvent après une année difficile, les petits-enfants qui ont hâte de retrouver leurs grands-parents. Le virus peut voyager avec nous. Ne lui donnons aucune opportunité de contaminer nos proches.
Et les consignes restent donc toujours le port du masque, la distance avec les personnes fragiles, le test systématique en cas de symptômes et l'isolement, même pendant les fêtes, en cas de résultat positif. Nos comportements sont d'autant plus cruciaux qu'ensuite, en janvier et durant la période hivernale, la météo risque d'aggraver l'épidémie, puisqu'on le sait, a répété le directeur général de la Santé, le froid, l'humidité, l'absence de vent et l'absence de soleil favorisent la propagation du virus.
Merci Anne Le Gall pour ces précisions. Ils font partie de ceux qui sans doute souffrent le plus du confinement, les étudiants qui entrevoient enfin le bout du tunnel.
Oui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, s'est en effet fixé comme objectif le présentiel dès la rentrée de janvier, mais pas pour tout le monde et pas tout de suite, Virginie Riva.
Non, effectivement, Isabelle, l'objectif c'est de reprendre progressivement en présentiel en faisant rentrer d'abord les plus fragiles dès le 4 janvier pour essayer d'accueillir tout le monde début février, si les conditions sanitaires le permettent. Alors, qui sont justement ces personnes les plus fragiles, eh bien, à charge pour chaque président d'université de les identifier. Cela peut être les étudiants en situation de handicap, les étudiants internationaux à risque de décrochage les premières années, les jeunes touchés par la fracture numérique. Parmi les présidents d'université que j'ai pu contacter, certains disent qu'ils peuvent faire du cas par cas assez facilement en croisant les informations des services de santé sur les campus notamment et de l'administration. D'autres vont choisir de privilégier par promotion, donc plutôt les premières années. Ils sont les plus fragilisés par la fermeture des facs parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment le fonctionnement universitaire et peuvent être très isolés. Mais très concrètement, chaque situation dans les facs va être différente car beaucoup seront encore en examen jusqu'à la mi-janvier.
Et on suivra ça. Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Deux jours après la démission de la maire de Marseille, Michel Rubirola, sa deuxième adjointe, Samia Ghali, annonce sur Europe 1 ce soir qu'elle votera pour le socialiste Benoît Payan.
Samia Ghali, dont les voix avaient été déterminantes pour la victoire de la gauche lors de l'élection au Conseil municipal.
Le verdict à présent au procès de l'attentat des jouets du Thalys.
Ayoub El Kazani a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Trois hommes accusés de l'avoir aidé, ainsi que son commanditaire Abdelhamid Abaoud, qui était également le coordinateur des attentats du 13 novembre. Ces trois hommes ont eux été condamnés à des peines allant de 7 à 27 ans de prison.
C'est une décision historique et lourde de sens que viennent de prendre les deux principaux syndicats de magistrats.
Ils déposent devant la Cour de justice de la République une plainte contre leur ministre Éric Dupond-Moretti, plainte pour prise illégale d'intérêt, Chloé Triomphe.
Oui, depuis 1978 et une plainte contre Alain Perfit, on n'avait jamais vu un tel climat de défiance qui s'est envenimé avec le rapport d'inspection contre les magistrats du parquet national financier contre lesquels Éric Dupond-Moretti avait déposé plainte lorsqu'il était encore avocat. Malgré les explications du ministre et un décret prononcé en octobre pour que les dossiers qu'il a eu à traiter comme avocat ne fassent plus l'objet d'aucune remontée d'informations, la colère des magistrats est intacte, comme l'explique Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats.
La situation de conflit d'intérêts, elle s'est matérialisée dans deux procédures, par la saisine de l'inspection générale de la justice contre des magistrats, magistrats contre lesquels Éric Dupond-Moretti, avocat, s'était exprimé, voire avait porté plainte, et ça, il avait tout à fait le droit de le faire comme avocat. Mais une fois ministre, il se sert de ses fonctions pour régler ses comptes, et c'est là qu'on a un vrai problème.
Cette plainte doit d'abord passer certains filtres au sein de la Cour de justice de la République afin de déterminer s'il y a bien une infraction pénale. On est donc très loin d'un éventuel procès, mais ce qui est certain, c'est que la fracture a encore franchi un nouveau palier.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Plus de 10 ans après les faits, l'ancien maire Les Républicains de Corbeil-Essonne, qui fut aussi le bras droit de l'édile milliardaire Serge Dassault, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme pour achat de votes et financement illégal de campagne électorale lors des élections municipales partielles de 2009 et de 2010.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 19h09 avec Isabelle Millet. Et cette fois, c'est confirmé. Huawei, le géant des télécoms, va donc construire en France sa première usine en dehors de Chine.
Et il a choisi l'Alsace, plus précisément la petite ville de Brumath, au nord de Strasbourg. Arthur Elmbaché, vous êtes sur place pour Europe 1. Et à Brumath, eh bien, on se réjouit de l'arrivée prochaine du controversé géant chinois.
Et les élus locaux lèvent les yeux au ciel quand vous leur rappelez la dimension parfois polémique de la 5G ou du mastodonte chinois Huawei. Le président de l'agglomération de Haguenau, Claude Sturny, qui a piloté le dossier, retient lui les 300 emplois promis, 500 même à terme, et les 200 millions d'euros d'investissement.
Je ne suis pas prêt à en faire une question politique. Il y a des entreprises dans plein de secteurs et on ne discute pas le bien fondé de l'implantation d'une usine d'armement ou d'une usine alimentaire ou d'une usine à un moment donné. C'est des emplois, on les veut pas, on en a besoin. Ce ne sont pas, c'est pas un débarquement chinois totalement inconnu. Ils connaissent l'environnement. Moi, je pense que cette entreprise-là va créer de la valeur pour toute l'Alsace, voire bien au-delà.
Huawei n'aura donc pas choisi Strasbourg, autre site potentiel. L'opposition municipale strasbourgeoise dit que c'est à cause de la défiance de la maire écologiste Jeanne Barseguian qui, disent-ils, a refroidi les investisseurs chinois en signant la fameuse tribune des maires contre la 5G.
Merci Arthur Elmbaché en direct de Brumath où va donc s'installer cette première usine Huawei hors de Chine. Les sports, les sportifs russes un peu épargnés par le tribunal arbitral du sport. Ils risquaient 4 ans sans compétition internationale pour avoir transgressé les règles antidopage. Finalement, ce sera 2 deux ans. L'Agence mondiale antidopage se réjouit d'une victoire qui fera date.
Une nouvelle formule pour la Coupe de France de foot.
Et oui, les amateurs et les professionnels ne pourront pas se croiser avant les 16e de finale. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que la compétition est maintenue.
Et on va vous parler maintenant d'un objet qui, bien avant Internet, a révolutionné les communications. 36-15, 36-16, 36-17, je veux parler bien sûr du Minitel.
Ouais, le Minitel cher notamment à Laurent Cabrol. Hein, figurez-vous qu'il y a quelques années encore, quand je suis arrivée à Europe 1, il trouvait de précieuses infos sur la météo. C'est véridique.
Mais non, mais si. Je ne crois pas.
Mais oui.
Il continuait à...
Ah oui, il paraît que c'était très fiable, la météo.
Mais il n'y avait pas que la météo, ma chère Isabelle, sur le Minitel, n'est-ce pas?
Oui, le Minitel rose, ça rappelle sans doute des souvenirs à certains, mais tout ça c'est terminé. Alors si vous êtes nostalgique, sachez que le Minitel est au cœur d'une nouvelle série française. Ça sort aujourd'hui sur la plateforme OCS. Ça s'appelle 3615 Monique, et vous l'avez vu en avant-première.
Allez-y, Margot. Mollo avec Monique, hein, c'est le nom de ma belle-mère. Hein.
Allez-y, Mollo.
Oui, nous sommes en 1980 lorsque trois étudiants décident, pour gagner un peu d'argent, de monter un service de messagerie érotique sur Minitel après une étude de marché très poussée.
D'après les sondages, un homme se masturbe environ 3 fois par semaine. Si on fixe un tarif de 50 francs à chaque conversation qu'on leur propose, sur un mois, ça fait un total de
567 798 francs.
La petite entreprise se développe très vite et conduit même les trois amis à recruter.
Oui, bah alors... Je suis encore puceau.
Ah, alors, non, ça va pas le faire. On en a déjà un dans l'équipe, c'est pas la peine.
Drôle, enlevé, les 10 épisodes de 36-15 Monique racontent aussi la fin des années Giscard, éteinte par la génération Mitterrand, une époque révolue, mais qui n'est pas sans rappeler la nôtre pour le réalisateur Simon Buisson.
Nos personnages, ils racontent la libération des mœurs dans les débuts des années 80. Les années 68 n'avaient pas encore porté complètement leurs fruits, quoi. Dans le ton de la série, il y a quelque chose, j'espère, d'anachronique, et en fait, le Minitel, bah, c'était comme un peu un iPhone, mais un peu plus gros, un peu plus basique. Qui permet de parler à des inconnus.
C'est d'ailleurs avec le Minitel rose que certains grands noms d'Internet ont fait leurs premiers pas. Le fondateur de Free, Xavier Niel, ou celui de Mythique, Marc Simoncini, ont commencé leur carrière sur le petit cube marron des PTT.
Voilà Margot Barallon qui nous conseille donc cette nouvelle série 36-15 Monique. Et Anissa qui nous rappelait, c'est vrai, j'avais oublié qu'on regardait les résultats du bac aussi sur le Minitel.
Moi j'étais un peu jeune les filles, chacun son truc. Hein.
Ça va.
Non, c'est pas vrai en plus. Je crois que j'ai dû les regarder sur le Minitel
aussi.
Vous
êtes plus vieux que moi, Julien, hein, je vous le dis au passage quand même.
Ah bon?
Eh oui,
ah bon,
et ça se voit pas.
Bon, très bien. Pardon, merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. Ben non, mais ça rappelle des souvenirs.
Ben bien sûr.
Et salut à Monique, hein, ma belle-mère, parce que voilà, à chaque fois que je pense à Monique, je pense à ma belle-mère.
On sent que Noël approche quand même. Hein.
Absolument, on se relâche un peu ici dans le plateau d'Europe Soir. Merci Isabelle, à demain. Anissa, la météo, non, plus sérieusement, temps calme demain, mais oui. Vigilance.
Oui, vigilance sur les Landes avec toujours cette vigilance crue et cette décrue très lente de l'Adour. Demain, la journée s'annonce en effet assez calme, sauf pour la pointe bretonne où une perturbation stagne toute la journée avec des averses et du vent sur les côtes. Sur le Languedoc, les entrées maritimes sont tenaces et apportent des pluies aussi toute la journée jusque sur la vallée du Rhône. Partout ailleurs, le soleil s'impose, donc sur les trois quarts de la France, ça reste sympa. Attention, demain matin, tout de même, aux nombreux brouillards. Les températures, elles baissent très légèrement, restent au-dessus des normales de saison avec 0 à 11 degrés demain matin et 7 à 18 degrés demain après-midi.
Merci Anissa, 36-15 à demain, 18h.
À demain.